Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. À Syracuse, une rue porte son nom. Son sourire est aussi éclatant que sexy et sa prunelle noire est rieuse. Bah, ça tombe bien, le garçon est l'un des acteurs humoristes les plus doués de sa génération. Je reçois Bruno Salomon. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Isabelle.
Europe 1.
Bonjour. À Syracuse, une rue porte son nom. Son sourire est aussi éclatant que sexy et sa prunelle noire est rieuse. Bah, ça tombe bien, le garçon est l'un des acteurs humoristes les plus doués de sa génération. Je reçois Bruno Salomon. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Isabelle.
Alors cher Bruno, mais ça va très très bien.
Quel accueil.
À vous. Cher Bruno, on parle toujours de cinéma d'anticipation, on parle de roman d'anticipation, jamais de one-man show d'anticipation. Je rappelle, c'est le sous-titre de votre spectacle. Car l'humour, en fait, tacle notre quotidien. Il ne se préoccupe pas de science-fiction. Vous, Bruno Salomon, sans aller jusqu'à la science-fiction, vous déplacez quand même l'humour en 2040 dans ce show. Alors, c'est pour mieux parler de notre présent que, en fait, vous nous regardez depuis le futur.
Mais effectivement, faire rire avec le futur, c'est pas toujours évident parce qu'on imagine un futur catastrophique tout le temps. Et là, je me disais quel contexte pourrait être idéal pour un futur positif. Alors, pour trouver un petit peu de l'enthousiasme, l'idéal, c'était une émission de divertissement dans le futur. C'est-à-dire qu'il se doit d'être toujours optimiste, toujours jovial, d'entretenir l'audimat aussi, le divertissement, tout ça. Et il y a cette volonté, en fait, de faire rire. Sauf que la météo et les infos sont catastrophiques, quoi. Et le décalage.
Encore plus qu'aujourd'hui.
Imaginez.
C'est dire.
C'est ce qu'on nous dit, hein. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, en fait. C'est un peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et comme je l'entendais tous les jours, j'entendais ça va être la fin du monde dans 20 ans, il n'y aura plus de notre civilisation, va s'effondrer, etc. Je me suis dit, mais ils ne peuvent pas nous dire ça tous les jours. Au bout d'un moment, c'est hyper anxiogène. Et pour désamorcer tout ça, voilà, j'avais envie de le mettre dans un contexte ludique.
Et voilà. La télé existera encore en 2040, Bruno Salomon.
Alors, c'est pas la télévision. Il y a la télévision, il y a Internet, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télévision, elle se met partout. Donc, les émissions de divertissement, on peut les regarder sur Internet aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la télévision à l'ancienne. Mais c'est, je pense que le plateau d'émissions de télévision classique, comme on connaît aujourd'hui, il existera toujours. L'invité avec les chroniqueurs.
Alors, avec les chroniqueurs, ambiance absolument déjantée. Mais ce qui est épatant, c'est qu'en 2040, puisque c'est l'année que vous avez choisie, une application va permettre de traduire en langage humain ce que pensent les animaux et votre arche de Noé, de l'ours polaire climato-sceptique au dauphin blanc raciste, il manque pas de relief. D'où vient ce goût pour l'absurde, pour le surréalisme dans l'humour?
C'est surréaliste et à la fois on se dit, tiens, si les animaux avaient la parole, qu'est-ce qu'ils diraient? On s'imagine toujours leur donner la parole depuis le début des temps, ça a toujours existé. Les animaux, on les a parlé déjà, au théâtre.
C'est vrai, les fables de la fontaine.
La fontaine, il y avait beaucoup de sens derrière, et là j'espère qu'il y en a aussi, mais c'est aussi l'envie de dire des choses sans les dire directement, quoi. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de décaler. C'est-à-dire un ours polaire climato-sceptique, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une abeille négationniste, un dauphin nazi, voilà. Mais il y a aussi un chat dépressif, un cochon révolutionnaire, voilà, c'est ça.
Formidable. Alors, en fait, ce show, il est écrit comme un conte fou. Vous n'êtes donc pas un enfant du stand-up?
Alors j'avoue que c'est vrai que tout le monde me dit, mais pourquoi tu racontes pas ta vie? Pourquoi tu fais pas... Déjà, je me dis...
Je vous ai pas posé cette question.
Non, mais c'est vrai que le stand-up, c'est ça. C'est soit on raconte sa vie, soit on parle d'actualité. Et moi, ma façon d'en parler, de parler de moi et de parler de l'actualité, en fait, c'est de la mettre dans un contexte et des situations avec des personnages. C'est une façon indirecte de parler de moi. Il y a une scène où je m'énerve contre justement le scientifique fou, parce que je lui dis, c'est quelque part, c'est de votre faute, quoi. S'il y a des scientifiques, si on en est là, c'est la technologie, c'est le progrès qui a tout pourri la planète. Ce serait peut-être à vous de nous en sortir. Vous n'avez pas une invention qui pourrait nous sauver? Tiens, t'as quoi en stock? Et l'autre en stock, il a la chaussette qui remonte toute seule, la chaussure qui grandit en même temps que votre
on
pied.
Va aller loin.
Enfin, il a que des trucs qui servent à rien, en fait. Et c'est un peu ça. On se dit, la technologie, bon, super, on a la 15G, on a plein de trucs, mais est-ce que ça va nous aider à nous en sortir, tout ça? Est-ce que justement l'évolution de l'homme a un sens pour sa survie? Ce que je suis toujours dit, je me suis dit, si un jour il y a un astéroïde qui nous fonce dessus et qu'on invente un réacteur qui se pose sur l'astéroïde et qui dévie la trajectoire, ça voudra dire que l'évolution de l'homme a un sens pour sa survie. Mais là, est-ce qu'on s'amène nous-mêmes au mur, face au mur, dans le mur, complètement dans le mur, on peut dire.
Bon, alors, vous n'avez pas de message, mais vous posez plein de questions avec ce spectacle, finalement. Bon, Bruno Salomon, vous dites avoir parmi vos amis des gens extrêmement drôles, très vifs, plein d'esprit, avec un sens de la répartie inouïe, mais qui ont un vrai blocage à l'idée de monter sur une scène et qui perdraient leurs moyens s'il fallait être drôle devant un public, plutôt que l'être comme ça de façon spontanée, comme ils savent faire dans le cercle privé des amis. Comment vous expliquez ces deux versants d'un même talent? Vous qui vous sentez si à l'aise dans la lumière et vous avez même l'impression que ça exacerbe vos dons, le fait de vous montrer comme ça face à un public.
Mais la scène transcende, alors je ne sais pas si c'est l'adrénaline, mais on est dans un état second. Moi, je me sens transporté par le public. Et quand le public, en plus, il est avec nous, c'est la transe totale. Quoi. Je m'envole. Quoi.
Vous envolez, mais vous avez plein d'amis pour qui c'est le contraire. Parce que j'imagine que forcément vos amis sont drôles, ils ont de l'esprit, ils ont de l'humour.
En fait, on connaît tous des gens drôles dans la vie, mais si on les met sur scène, il se passe rien. Et puis inversement, c'est-à-dire que les gens qui... Il y a plein d'humoristes, on dit dans la vie, c'est des dépressifs. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément marrants tout le temps, mais sur scène, il se passe quelque chose. Quoi. Et c'est ça qui est étonnant, d'ailleurs, cette bascule.
Vous, est-ce que vous ressemblez à celui qui nous fait rire?
En fait, vu que je fais plein de personnages, j'ai l'impression que je ressemble à plein de choses. Et je ne sais pas auxquels je ressemble le plus, mais c'est vrai que dans la vie, je suis un gamin. Quoi. J'ai besoin de faire rire, j'ai besoin de faire le con. Et dans la vie, je me sens absurde aussi. C'est-à-dire que j'ai des pensées complètement loufoques. Et je me dis, mais c'est dingue de penser comme ça. Je pense que moi, j'ai longtemps cru que ce n'était pas normal. Je me dis, mais j'ai des pensées bizarres. Il y a des sortes d'animaux dans ma tête. Il y a des trucs qui s'opèrent, des
vous
objets.
Vous êtes plusieurs.
Etc.
Vous êtes très nombreux.
Non, mais c'est très étonnant. C'est-à-dire que finalement, je fais vivre tout ce qui se passe dans ma tête. Les animaux, les plantes, tout ça, les objets, je les fais vivre dans le spectacle. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi pas finalement?
Bon, cette interview va se transformer en séance de psychanalyse. On s'interrompt un très bref instant et on retrouve tout de suite mon invité totalement allumé, Bruno Salomon. Alors, cher Bruno, Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, et Marseille, au bord de la Grande Bleue, c'est pas tout à fait la même ambiance. Or, votre biographie est floue. Vous avez grandi à l'ombre, plutôt à l'ombre de la forêt de Sénart, ou sous le soleil de la Canebière?
En fait, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 8 ans à Marseille. Alors, j'étais pas à la Canebière, malheureusement, j'étais plutôt dans les quartiers un peu Tandax, on va dire, un peu les Cayolles, pour ceux qui connaissent, et la Valentine. Bon, la Valentine, c'est sympa, mais... Et après, je suis arrivé à Paris, en banlieue aussi, donc à Villeneuve-Saint-Georges. Mais j'ai vécu vraiment une bascule. C'est peut-être pour ça que je me sens plein de choses, parce que c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de joyeux, festif dans le sud, parce que j'avais toute ma famille, etc. Il y avait la mer, le soleil, etc. Puis là, j'arrive en banlieue parisienne et d'un seul coup, c'est gris. Les gens sont à Marseille, je dis pas qu'ils sont pas attendus, parce qu'il y en a aussi des énervés. Mais c'était pas pareil. Quoi.
Ouais, c'est là, climat. C'est bétonné, alors que c'est devant bétonné. Vous aviez la Grande Bleue qui scintillait.
Voilà, enfin devant moi, assez loin, mais elle était, on pouvait y aller en bus. Parce que là, c'est le lac de Créteil.
C'est pas exactement la Méditerranée.
C'est pas le même délire.
Voilà. Alors, votre maman est flamande, votre père est sicilien. A priori, on n'imagine pas des cultures et des horizons plus différents que ceux des Flandres et de la Sicile. Vous êtes donc un étonnant mélange. Qu'est-ce qu'il y a de flamand, qu'est-ce qu'il y a de sicilien en vous, Bruno Salomon?
Alors ça, c'est des origines lointaines, parce que c'est trois générations derrière. Mais on va dire que je détiens la mafia des frites. Non, non, je me sens. C'est vrai que je me sens assez contrasté, parce que justement, du côté paternel, c'était assez latin, assez on s'exprimait fortement. Et du côté de maternel, c'est plus l'ambiance nordique. Donc c'est un peu, on monte pas ses sentiments. Il y a une sorte de pudeur avec ça.
On se verrouille.
Donc c'est peut-être pour ça que j'ai dû trouver un truc. Et je suis très contrastait parce que je peux être très pudique comme complètement déjanté. Quoi.
Quel était le métier de vos parents ?
Mon papa était plombier et ma maman était couturière.
Couturière. Ouais. Alors vous avez eu une enfance solitaire car vous n'aviez ni frère ni sœur, mais vous n'êtes jamais ennuyé. C'est une belle fabrique d'imaginaire, la solitude.
Ben finalement, oui, parce que mon père est parti, j'avais 9 ans et je me suis retrouvé avec ma maman. Et du coup, quand elle n'était pas là, du coup, je me fabriquais un monde avec mes jouets et j'avais des cochons d'Inde. Et j'en ai fait un sketch, du coup, le cochon d'Inde super-héros, et je m'inventais un monde. Et finalement, ça m'a aidé au niveau de la créativité.
Mais en fait, vous ne ressembliez pas vraiment aux autres enfants. Vous étiez repérable. Il y avait quelque chose qui vous distinguait, par exemple, à l'école. Vous étiez un enfant rêveur ou au contraire, incroyablement fantaisiste et toujours en train d'organiser des spectacles dans la cour de récré ou,
Ah non, j'étais très timide. Timide, maladif, mais en colonie de vacances, j'ai fait un sketch un jour. Et je suis monté sur scène, il s'est opéré un truc sur scène, c'est-à-dire que on n'a pas le choix quand on est sur scène, on est obligé d'être à fond, on est obligé d'exister totalement, et on peut pas faire les choses en demi-teinte, donc j'y suis allé et là il s'est opéré un truc en moi.
Alors le problème c'est que dans les années 80, il n'y avait pas du tout de captation de spectacles de café-théâtre comme il y en a aujourd'hui, donc à l'adolescence, pour creuser son sillon vers l'humour, vers le rire, vous y êtes pris comment ? Qui vous impressionnait par exemple quand vous étiez ado ? Dans ce milieu-là, dans ce métier ?
En fait, j'étais vraiment passionné par tous les humoristes. J'aimais Coluche, Desproges, après, plus tard, Dupontel, Élie Kakou, tout ça. Et j'ai pris un peu à tout le monde, quoi. Je me suis inspiré. Jacques Baudouin aussi, que j'aimais beaucoup. Enfin, il y en avait plein, quoi.
Dès
qu'il y
avait... L'un des tout premiers, Baudouin.
Jacques Baudouin, j'adorais, ouais. Et il faisait des personnages. Et d'ailleurs, il m'a beaucoup inspiré, parce qu'il faisait vraiment des personnages très typés et presque cartoon. Et je m'en suis inspiré énormément. C'est surprenant, il était dingue.
Alors
c'est dingue.
Là, vous répétiez la technique en l'écoutant, non ?
Oui, il avait une vraie technique. Et je me disais, mais pourquoi ce mec n'est pas au Panthéon, quoi ? Je ne comprends pas.
Bon, Bruno Salomon, oui. je fais des arrêts dans le temps comme ça. Nous sommes l'été 87. Vous avez tout juste 17 ans. Vous partez en vacances avec des copains, sans un sou vaillant, mais avec la ferme intention de payer votre séjour, par exemple en vendant des chouchous sur la plage.
Mais...
Ça ne doit pas si bien fonctionner que ça, puisque un soir, au culot, vous vous présentez dans une boîte de nuit en proposant au patron de jouer chez lui votre spectacle.
Tout à fait.
Sans préciser, bien sûr, que le spectacle, eh ben, vous ne l'avez pas encore écrit. Vous nous racontez la suite.
On écrivait sur la plage avec mon pote David Sall, qui est comédien aussi.
Oui.
Et on y allait au culot, quoi. Et on faisait un peu n'importe quoi. Et ça marchait parce qu'on avait une bonne énergie entre nous deux. Il y a une complicité qui est tellement forte.
Mais attendez, quand vous dites le spectacle, on l'a écrit. Le patron vous a programmé le lendemain, la semaine suivante. Vous avez eu combien de temps pour l'improviser, le spectacle ?
Ah non, mais on faisait un spectacle. En plus, on était tellement au culot qu'on lui a dit on vous fait un spectacle différent tous les soirs. On faisait n'importe quoi, on improvisait, on faisait des imitations, on faisait des personnages et on se donnait plus ou moins une sorte d'arche comme ça et au milieu de tout ça on faisait des personnages, on improvisait avec les gens, etc.
Et le public vous suivait ?
Oui, alors le public n'était pas très nombreux, j'avoue. S'il y avait 10 personnes, c'était un carton hein, déjà.
D'accord, donc le patron était content ?
Mais le patron était content, il nous payait en liquide, en plus on était contents, nous. Ça nous payait nos sandwichs.
Donc la leçon de tout ça, c'est que tout est possible si on a de l'ambition, de l'énergie, si on y croit furieusement.
J'ai l'impression que c'est un mélange de plein de choses, quoi. Il y a de l'audace, il y a du persévérance, du travail, du talent et... Et puis, il faut qu'il y ait un peu tous les ingrédients, hein, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que l'audace, des fois, je me dis, mais lui, il a un culot dingue, il y va. Alors que, à mon avis, il n'a pas suffisamment de talent, alors que je connais des gens qui ont un talent dingue et qui n'osent pas y aller.
Oui, c'est ça, mais alors, on ne peut quand même pas réussir si on a plus d'audace que de talent.
On va pas
donner de nom.
Non, mais des fois c'est surprenant. Mais en fait, vous savez, c'est un peu la suggestion. J'ai l'impression d'une sorte de truc. Si je vous persuade que je suis un mec formidable, vous y croyez. C'est de la vente, quoi. C'est du marketing. Il y a des mecs qui sont doués, mais je connais des gens qui vont me vendre un scénar. Je dis, putain, c'est génial son truc. Je lis le scénar, mais c'est de la daube. Mais c'est nul. Je dis, mais comment il a pu me vendre un truc ? J'y croyais. Et un autre qui me donne son texte, je dis, mais le mec, je sens qu'il y croit pas trop. C'est génial. Et je me dis, bah, donc en fait, il faut juger soi-même. Quoi, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est compliqué aussi. J'ai l'impression que le marché du cinéma, il y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que le mec qui va aller en télé, qui va savoir faire des blagues en télé et avec une super bande-annonce, il va vous vendre son film.
Bien sûr.
Mais est-ce que le film, il est bien ? pas sûr. Par contre, le mec n'est pas à l'aise sur un plateau et qui s'est investi, qui a écrit un super truc, je ne sais pas, il ne va pas savoir vous le vendre. Et la bande-annonce ne va pas être terrible parce que c'est dur de résumer un film en une minute. Bah, lui, il ne va pas forcément y arriver. C'est ça qui est cruel.
Voilà. Donc c'est terrible de vivre dans une société de la com.
Et oui, il faut aller vite, tout de suite, il faut vendre le truc, c'est super hacké, vas-y, fais-moi rire, tout de suite, maintenant, vas-y. Et d'ailleurs, c'était le propos de mon précédent spectacle, c'était cette obsession de
dans
de,
celui de faire qui avait rire. Pour titre euphorique.
Voilà, c'était l'histoire d'un enfant qui est né en riant, Gaulerie, ouais, et qui va passer sa vie à rire, et il va se retrouver dans le monde de l'audiovisuel, et justement, on va lui demander d'être drôle tout le temps. Et il s'avère qu'il est plus spectateur que comique.
Je crois savoir que vous aimeriez bien adapter d'ailleurs ce spectacle euphorique au cinéma.
J'adorerais, mais justement, c'est trop barré. J'ai proposé à des prods, ils m'ont dit hein, c'est trop fou. On m'a fait quand même le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
Allez, dites-nous.
Et c'est un reproche. On m'a dit ça ressemble à rien de ce qui existe. Je dis mais tu peux pas me faire le plus beau compliment au monde. Et on me dit ouais, mais non, parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de référent, donc c'est invendable. Et donc il faut que ce soit comme quelque chose. C'est terrible.
C'est terrible alors qu'on est théoriquement dans le domaine de la création.
Bah, pour moi, c'est l'idée, voilà. C'est de ne pas ressembler à quelqu'un.
Après, bien sûr.
C'est sûr qu'on prend des risques. On prend des risques et il faut un petit temps. Quoi. Mais le temps, on n'a pas le temps d'avoir le temps.
Mais si, ici sur Europe 1, on a le temps de prendre son temps pour se dire plein de choses les yeux dans les yeux. Alors on retrouve tout de suite Bruno Salomon. Alors Bruno Salomon, on vient de vous quitter l'été 87 à Narbonne, décrochant au culot votre premier contrat d'humoriste dans une boîte de nuit alors que vous n'aviez écrit aucun spectacle. On vous retrouve sur les bancs d'un amphi, faisant semblant de vouloir devenir vétérinaire. En fait, les deux années de classe préparatoire, vous les avez faites ? Elles se sont déroulées comment ?
Non, j'étais refusé en prépa veto.
Ah, vous avez été refusé en prépa veto ?
Du coup, j'étais à Pierre et Marie Curie pour faire biologie.
Et alors ?
Mais très vite, je me suis aperçu.
Je n'interviewe pas un biologiste.
Non, voilà, je ne suis pas biologiste. Mais... Et très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas pour moi. Donc, et puis, c'était soit on devenait chercheur, soit prof. Donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire.
Alors, vous êtes donc parti effectivement à l'aventure, d'audition en audition. Vous avez fait plein de petits boulots, tous plus improbables les uns que les autres. Comme, ça c'est magnifique, bien sûr, celui qui vous a fait porter le costume de Dingo chez Euro Disney. Bon, faut furieusement croire en son étoile pour résister sous le masque de Dingo. Dites-moi.
C'est joli comme phrase. Hein? Mais à ce moment-là, moi je ne réfléchis pas, j'ai quoi, j'ai 21, 22, j'ai 22 ans et je suis totalement insouciant. Je suis content de faire Dingo, je suis content d'être à Disney, je rencontre plein de gens, il y a plein d'artistes. Et en plus, c'est une boîte où on peut évoluer et il n'y a pas de jugement en plus, c'est assez étonnant.
Ah bon, parce que j'imaginais que chez Disney, il y avait quand même une charte assez rigide à respecter.
Ah oui, par contre, il y a des règles. Mais d'ailleurs, j'avais fait un sketch qui s'appelait Le pays de la magie où j'expliquais c'est une sorte de dictature un peu. On faisait des clashs comme à l'armée et tout, etc.
Tout ça formé. Pour incarner Dingo.
Tout ça pour. Non, c'était pour être formé, pour être ce qu'ils appelaient cast member, pour être employé chez Disney. À l'époque, il y avait 12 000 employés en 92 à l'ouverture.
Oui.
Et c'était terrible parce qu'en fait, on a vécu un truc dingue. C'est-à-dire qu'on avait des payes, je me rappelle, on avait des payes de 300 francs. Ils faisaient des erreurs et un jour, j'ai une paye négative. J'ai dit, mais attendez, je veux bien faire Dingo, mais
mon Dieu. Mais Dingo, c'est calculé.
Pas vous payer quand... Non, mais c'est par contre, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai appris le mime finalement. J'ai pris
mais c'est
cours,
ce que j'allais vous demander parce que ouais. Bon, déjà, on étouffe dans un costume qui pèse une tonne et alors il est parfaitement rigide. Comment on s'y prend pour que les enfants aient l'impression d'avoir un animal vivant devant eux.
Surtout un personnage de dessin animé, c'est
mais
même
c'est
pas
ça.
Un animal. D'ailleurs, ils ont peur souvent les enfants. Mais Dingo, c'est pas le plus dur. Hein. Il y a les Baloux, les frères Jean, vous savez, dans Robin des Bois, tout ça, c'était terrible. Les mecs, ils
on
se ruine
la colonne vertébrale.
Ah non, mais il y a eu des accidents terribles, je vous raconte pas. Mais c'était. Mais il y a eu des trucs dramatiques, en fait. Mais c'est assez étonnant, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, ils ont vraiment l'impression de voir une peluche, donc ils vont taper la peluche, mais à l'intérieur il y a un monsieur dedans. Ce qui est, le pire c'est les adultes, quoi, parce que les adultes pensent
mon
que
Dieu.
Ils disent oh, non, il est marrant, il tape Balou, mais Balou il a mal, il a très très mal.
Mais alors Dingo, Bruno Salomon, vous l'aviez choisi parce que donc vous le trouviez sympathique
pas.
Ou non, on vous l'a attribué d'office.
Non, en fait j'étais à l'ANP du spectacle à l'époque, je cherchais du boulot et j'ai un ami qui m'a dit tiens, il cherche des comédiens pour un film pour Disney, un film publicitaire, et j'arrive, il y a 150 personnes, on me dit mets-toi en chaussettes, je dis ok, il y a un mec qui danse je suis le mec qui danse, tu suis les pas, la chorégraphie du mec qui danse. Ah bon, d'accord, je croyais que c'était pour le film.
Ouais.
Et là, je suis, on s'arrête, et puis bon, toi, tu fais Blanche-Neige, toi, tu fais Dingo, toi,
incroyable.
Tu fais Tic et Tac.
Donc, il peut y avoir. Non, il n'y a pas de garçon dans le costume de Blanche-Neige, quand même.
Ah ben, Blanche-Neige, en fait, il y a des personnages où on voit le visage.
Oui, donc là, quand même.
Donc là, c'est dur.
Alors, faites bien raser.
Ça, bien fait.
Donc, pour résumer, Bruno Salomon, pour résumer, il y a plein d'enfants qui ont pris des photos avec vous en ignorant que plus tard, ils seraient fans de vos spectacles.
Et même voilà. Michael Jackson, à Berlin, a pris une photo avec moi. Voilà, ça, c'est la classe ou pas ?
C'est la classe.
C'est pas la classe ou pas ?
C'est pas la classe.
Non, parce que Jackson était fan de Disney, et moi, je suis super fier, parce que je me suis dit, j'ai serré la main à Michael Jackson, il m'a parlé, quoi, c'était dingue.
Voilà. Et vous savez, vous dites ça à quelqu'un qui a chanté en duo avec lui, en 81 ?
Oui.
Oui.
Ah, pardon,
bon, ça, c'est une autre histoire.
Bah, oui. Vous avez chanté, moi, je lui ai serré la main.
Alors,
avec
Bruno Salomon. Des scènes ouvertes, je continue de dérouler le fil, hein. Des scènes ouvertes à Paris. Ces fameuses scènes sur lesquelles on a droit à 5 minutes si tout va bien, mais dont on peut se faire jeter au bout de 40 secondes si ça va moins bien. Vous en avez fait comme Gad Elmaleh, Jamel, Danny Boone en ont fait. Ça, c'était aussi grisant que stressant.
Ah oui, c'était excitant, très excitant.
C'est vrai, vous recommandez ça à ceux qui démarrent dans le métier?
Oui, c'est une scène qui, au Trévise, tous les dimanches, en fait, vous pouvez vous inscrire, vous jouez, ça s'appelle le Field, ils organisent des spectacles, n'importe qui peut s'inscrire, jouer le soir directement. Et d'ailleurs, Jamel, on a commencé ensemble, on faisait des petits cafés-théâtres ensemble, et déjà, il avait un truc exceptionnel, quoi. Enfin, c'était déjà présent, et on le sent très très vite, quoi, hein, quand il s'opère un truc sur scène. Ouais.
Mais alors, dans la salle, par exemple, il y a des producteurs qui se cachent dans le public régulièrement
Bon, ça, c'est plus rare, quand même. Non,
c'est plus rare.
C'est plus rare, le mec qui dit « je crois en toi ». Ou alors, il faut faire gaffe, parce que souvent, il y a des requins qui vous chopent avant d'être pris par un plus gros.
Ah ouais, d'accord.
Et eux, ils vous font signer des contrats, hein, et ils vous bloquent.
Et ils vous bloquent.
Et ils vous bloquent, et ils peuvent vous pourrir votre carrière. Ça peut être très dangereux.
Vous avez connu ça?
Mais en fait, on est obligé de passer par là, parce qu'au début, quelqu'un vous propose un contrat, le but c'est de travailler, donc forcément vous y allez. Et en même temps, c'est un pied à l'étrier énorme. Moi, je regretterais, hein, franchement.
Alors, Bruno Salomon, la vraie rampe de lancement, ça a été l'émission Graines de Star en 96 sur, ouais, M6. Vous aviez Sylvie Joly pour marraine,
oui.
Vous remportez la finale, vous jouez alors au Carré Blanc, ce café théâtre qui n'existe plus. Et il y a une bande absolument formidable qui se greffe autour de vous. Bien sûr, les Nous C'est Nous, parodiant les boys bands de l'époque, dans un esprit complètement potache. Une bande sans leader dans les Nous C'est Nous. Il y avait donc Eric Collado, Eric Massot, Emmanuel Jouclas et Jean Dujardin. Que reste-t-il de cette époque où vous rêviez tous ensemble sans savoir ce que le destin réservait aux uns et aux autres?
Oui, c'est ça, je pense que c'est exactement ça. L'insouciance totale, on faisait des sketchs, c'était une bande de potes qui s'amusaient. On réfléchit pas, Patrick Sébastien après nous a pris dans ses émissions et on faisait des sketchs.
Mais il n'y avait pas de problème d'ego.
À cette époque-là, il n'y avait pas d'ego, non. Non. Il y avait, bah, d'ailleurs, toujours pas, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a une sorte d'unité, il y a un truc qui se crée, on est chacun dans notre délire. Mais c'était vraiment une complicité, quoi.
Vous arrivez à vous voir,
ouais,
assez souvent?
Oui, de temps en temps, on se voit, on se fait une petite bouffe et puis on rigole, comme avant, quoi. C'est
comme
des potes d'armée, quoi.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Bruno Salomon. Bruno Salomon, cette phrase, belle comme un trophée, qu'un type un jour vous a balancé pour, paraît-il, vous refuser un casting. Toi, c'est non, parce que quand tu parles, tu excites les femmes et tu énerves les hommes. Elle est vraie ou pas?
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
On vous a dit ça?
Oui, on m'a dit ça. On m'a dit, t'es pas fait pour faire ce métier parce que tu vas exciter les femmes et énerver les hommes.
C'est magnifique.
Et voilà. Mais je ne sais pas ce qui se produit en tout cas, mais il y a des gens qui viennent.
Voilà, les femmes et les hommes sont contents. Bon, Bruno Salomon, on se souvient effectivement des premiers one-man shows que vous avez signés. Tous dans la veine de l'absurde, d'un humour vraiment surréaliste. Alors, je vais avancer un nom qu'on n'associe jamais à l'humour, mais curieusement, Louis Buñuel, puisqu'il s'agit de lui, le réalisateur donc du Charme discret de la bourgeoisie, de cet obscur objet du désir, de Belle de jour. Louis Buñuel serait à l'origine de ce chemin autorisé vers l'absurde, grâce en fait au plus fou de ses films, Le fantôme de la liberté, c'est ça? Ce film a provoqué un jour un déclic chez vous?
Ah, j'ai eu un déclic. Quand j'ai vu Le fantôme de la liberté, alors j'étais jeune, mais je me suis dit, c'est dingue, on a le droit de faire ça. C'est-à-dire, je me suis dit, il est fou, il est complètement dingue. Il y a une sorte d'émeu qui apparaît dans la chambre de Briali. Il y a le facteur qui arrive dans sa chambre. On passe d'une scène à l'autre, on suit un personnage qui rencontre un personnage, on oublie le premier. Et là, je me dis, mais c'est dingue, c'est complètement fou. Ils montrent des images du Sacré-Cœur en disant que c'est obscène. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, moi, j'avais pas intellectualisé le film, parce que qu'à l'époque, je l'ai vu simplement, basiquement, comme un,
au premier
un
degré.
Truc, au premier de, comme un, quelque chose de, d'absurde. Sur la liste. Pour faire, moi, je croyais que c'était juste pour faire rire. Je ne savais pas qu'il y avait, il y avait tout ce background chez Buñuel, parce que quand j'ai découvert ce film, c'est le premier film que j'ai vu de Buñuel. Quoi. Je ne connaissais rien du tout. Après, effectivement, bon, on comprend mieux le film, parce qu'il parle justement du fantôme du communisme qui plane sur l'Europe. Justement. Oui. Alors, moi, j'avais pas vu ça. Ça commence avec le tableau de Goya, etc. On a un truc qui prend un télo. Moi, j'avais pris vraiment le film basiquement. Mais je me suis dit, tiens, c'est génial, j'ai envie de faire ça.
Vous avez pris ça pour un blanc-seing, vous disant finalement, on peut être fou et très respecté.
Alors, j'ai pas pensé au respect, mais je me suis dit, tiens, on peut aller dans des trucs complètement dingues. Il y a une scène avec Michael Lonsdale qui arrive, qui fait venir tout, plein de moines dans sa chambre, et il leur demande de rester là. Il les convoque tous, et à un moment, il se fait fouetter par sa femme, et il commence à lui dire, fouette-moi, salope, avec la voix de Michael Lonsdale, qui est complètement. Il y a un décalage qui se crée, là, les moines sont choqués, et ils voulaient toujours choquer Buñuel, et là, il y a un décalage énorme, et moi, j'ai pris le truc simplement comme un gag, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ? C'est fou. Et j'ai eu envie de faire, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me diriger vers ça en plus populaire, j'ai envie de dire. Après, j'ai découvert l'humour anglais, etc. Mais je trouve qu'ils vont très loin, les Anglais, ils sont très très forts. Dans le spectacle, je revendique un one-man show d'anticipation, parce que l'anticipation, je trouve que c'est les Anglais qui sont le plus forts dans leur série, dans leur film. Ils vont très loin dans l'humour. Enfin, pour moi, ils sont au top du top. Mais en France, on a du mal à aller là-dedans, parce qu'on se dit que ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas aimer, alors que ça cartonne. Enfin, on voit Black Mirror, Years and Years, des séries qui cartonnent en France. Oui. Et nous, pourquoi on le fait pas ? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une frilosité là-dessus.
On se pose trop de questions.
Je sais pas si c'est on se pose trop de questions ou si c'est les décideurs qui veulent pas prendre ces décisions.
Alors, les décisions, justement. Bruno Salomon, une carrière d'acteur, ça se construit autant par les rôles refusés que par ceux acceptés. Mais les acteurs sont-ils plus souvent confrontés à de mauvais projets dans la comédie et dans l'humour que dans le drame, selon vous ? Quand on est un acteur qui a justement cette dimension comique, est-ce qu'on lit davantage de scénarios faciles ?
Alors, étonnamment, on propose aussi beaucoup de films sérieux, mais plus en télévision.
Plus à la télé, oui, parce que vous avez même incarné des personnages sombres dans des primes qui étaient des fictions, des tragédies.
Oui, parce que j'aime bien aller dans les deux, mais c'est vrai qu'au cinéma, on va me proposer plus des comédies... plus facile, je dirais, mais donc du coup, j'ai pas forcément envie d'y aller.
Alors je continue de creuser comme ça la carrière de Bruno Salomon. Bon, Fais pas ci, fais pas ça, diffusé de 2007 sur France 2 jusqu'en 2017, a rejoint les séries de légende. On s'est tous identifiés, soit au Boulet, soit au Le Pic, porté autour de vous donc par Isabelle Gélinas, Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec. En préparant cette émission, j'ai visionné ce qui a suivi le tournage de la toute dernière scène de Fais pas ci, fais pas ça. Tout le monde était en larmes. Mais vraiment, tout le monde était en larmes. C'est franchement pas comme ça sur toutes les séries. Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant.
Ah oui. Ouais, je pense qu'il s'est passé. Puis surtout de voir les enfants grandir. Et d'avoir l'impression... Moi, j'ai pas d'enfants. D'un seul coup, j'avais l'impression d'en avoir. Puis vraiment, ça nous a bien accompagnés. Cette série, elle est... Pour le coup, elle a beaucoup de sens. C'est pas qu'une série familiale. C'est pas le but, c'est pas que de faire rire. Je trouve qu'il y a un vrai propos derrière.
Ouais.
Hein, c'est Réac qui fabrique des bobos et c'est Bobo qui fabrique des Réac. Leurs contradictions face à leur éducation, etc. Enfin, je trouve que et surtout les comédiens, ils sont tous incroyables, quoi. Que ce soit les enfants comme les adultes.
Bah, bien sûr.
C'est vraiment des. Moi, je suis super fier d'avoir.
Mais Denis Boulet. Oui. C'était donc votre rôle. En fait, Denis Boulet, c'était vous, Bruno Salomon. Il y a beaucoup de Bruno Salomon dans ce personnage.
Physiquement, c'était moi.
Mais le fait de se chercher comme ça...
Le fait de se chercher, j'en zozote. non, mais je me suis inspiré de quelqu'un que je connais, effectivement, qui se cherche beaucoup, mais c'est pas moi. Non, c'est pas moi, Denis Boulet. Je
ne suis pas
Denis...
encore trouvé.
Ouais, et qui se cherche, qui fait toujours des petits jobs. Lui, il passe de photographe pour chat, il a fait tout, animateur en maison de retraite, etc. Moi, j'ai fait plein de petits jobs, et j'ai très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon métier. Et du coup, de faire des métiers différents, parce que comédien, on peut passer d'un métier à l'autre, c'est ça qui est génial.
On peut passer d'un métier à l'autre, on peut passer aussi d'une latitude à l'autre. Par exemple, pour la dernière saison de Fais pas ci, fais pas ça, vous êtes parti tourner en Inde, à Jaipur, les deux derniers épisodes, et vous avez découvert une autre planète. En fait, l'Inde a jeté sur vous ses sortilèges. Comment ça s'est passé ?
Ah, c'était dingue. Ouais, c'était dingue. Mais surtout, il faisait un temps de dingue.
C'est-à-dire
bah, c'était 50 degrés, pour le coup, c'était des conditions terribles. Mais c'était, oui, il y avait un côté festif, quoi. C'était Père Joyon s'est mis à chanter, enfin, c'était une comédie musicale, d'un seul coup, c'était Bollywood, quoi. On était, ils sont 22 par poste en Inde, enfin, c'est une autre dimension.
Parce que
quoi.
Vous aviez des équipes indiennes qui vous avaient rejoint sur la prod.
C'était hyper... Ouais, ça m'a marqué l'Inde, c'est très très fort. En plus Jaipur, il y a un truc, on se promène dans les rues, on voit un éléphant, on voit un cochon, une vache, enfin il y a des rickshaws dans tous les sens, ça, les taxis prennent les routes à contresens, on croit qu'on va mourir à chaque seconde, c'est une autre dimension, il y a des palais sublimes, enfin, c'est fou. Moi ça m'a vraiment marqué.
On retrouve tout de suite Bruno Salomon. Alors Bruno Salomon, au début de vos carrières respectives, embarquées dans l'aventure des Nous c'est nous, puis de Brise de Nice 1, le public vous prenait pour deux frères, Jean Dujardin et vous. La complicité est restée intacte, je le sais, rien n'a entamé votre amitié, simplement, Jean Dujardin n'a jamais refait de one-man show depuis 20 ans, le cinéma est vraiment son vecteur exclusif, alors que vos rôles sont plus nombreux à la télé qu'au cinéma, Bruno. Mm-hmm. Comment faut-il s'y prendre quand on sait que la télé est friande de stars de cinéma, mais que l'inverse est faux? Alors comment faut-il s'y prendre pour faire davantage de cinéma?
Mais c'est presque, si c'était deux mondes, ouais, c'est deux mondes opposés, deux industries différentes, quoi. C'est-à-dire qu'on va me proposer des drames ou des premiers rôles en télévision, et au cinéma, on va me proposer des comédies avec des plus petits rôles. Et... C'est très étonnant, c'est-à-dire c'est ce qu'on représente. Je pense que c'est ce qui résonne en termes de chiffres et ne résonne pas en termes de qualité. Qu'est-ce que la
le
personne
cinéma
a
résonne
nous proposer
davantage en termes de chiffres que
non,
la
je
télévision.
Je pense que c'est deux, vraiment, c'est deux industries différentes. Quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en télévision, ils disent tiens, lui, il a fait ça. Alors, c'est sûr qu'un mec qui remplit des salles de cinéma, ils disent il va nous remplir la télévision. Et l'inverse ne marche pas forcément. C'est-à-dire que...
Mais pourtant, cette année, Bruno Salomon, vous serez à l'affiche d'un film tourné avec vraiment l'étoile montante du cinéma français, Virginie Efira, dont vous jouez le mari chef d'orchestre. Le film a pour titre Madeleine Collins. Est-ce que ça signe l'ouverture d'un registre, je ne sais pas, nouveau pour vous au cinéma?
Ben pourquoi pas.
Il sort quand ce film? Vous pouvez nous en dire davantage?
Pour l'instant, je ne sais pas quand il sort. Il est en montage, donc on ne sait pas plus. Mais en tout cas, ce n'est pas une comédie. C'est l'histoire d'une femme qui mène une double vie. Et moi, je fais un de ses maris.
D'accord. Voilà. Bon,
est chef d'orchestre.
D'accord. Voilà. Alors, sur un plateau de cinéma, est-ce que la caméra vous regarde comme elle le fait sur un plateau de télé? Non, vraiment, c'est différent.
Franchement, j'ai pas l'impression. Et ce qui est très étonnant. Vraiment. Dans mon expérience personnelle, après, j'ai pas tourné. Mais j'ai eu la sensation qu'en télévision, des fois, on avait presque plus le temps et presque plus les moyens de faire des choses de qualité. Et moi, les scénars que
ça
je...
alors.
Mais à mon échelle, c'est-à-dire que ce que j'ai lu était de meilleure qualité. Là, on vient de me proposer encore un autre film. Le scénar est hyper bien construit. Et ce que je reçois pour le cinéma, c'est moins bien. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller au cinéma parce que c'est du cinéma. Et,
bien sûr.
Et voilà, si ce n'est pas bien, je ne le fais pas, non.
Mais j'en viens aux caméras. On n'a pas le sentiment de jouer pour l'éphémère à la télé et d'inscrire quelque chose pour une espèce de petite éternité dès qu'il s'agit du 7e art?
J'ai envie de trouver un exemple de téléfilm qui reste encore gravé aujourd'hui. Inspecteur Derrick.
Les rois maudits.
Non, mais l'année de la jupe, je crois que c'était. Non, mais un téléfilm peut devenir un long métrage. Après, c'est le support, mais ce qui compte, c'est ce qu'on raconte, c'est le propos et c'est ce qui est dedans. Quoi. Enfin, moi, après que ce soit de la télé ou du cinéma, c'est sûr que le cinéma, il y a un côté grand écran prestigieux. Mais on parlait de Fais pas ci, fais pas ça. On a fait des projections en public de Fais pas ci, fais pas ça.
Ouais.
Il y a eu des rires. Franchement, j'avais jamais vu ça pour une comédie. Quoi. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était pour Les Visiteurs. C'est-à-dire que la salle était en liesse, c'était le délire total, les gens se marraient. J'ai dit, pourquoi on ne fait pas un film de Fais pas ci, fais pas ça?
Alors, je vous pose la question.
Ben, pourquoi? Ben, je vous pose aussi la question. Il faut la poser au producteur.
Parce que, alors, un film, effectivement, de Fais pas ci, fais pas ça. Et si jamais il n'y a pas un film, en Angleterre, lorsqu'une série a triomphé à la télé, même si elle est arrêtée depuis plusieurs années, les producteurs tournent ce qu'ils appellent un special Christmas.
Ah ben ça, on va
n'est-ce
le faire.
Pas Mais alors vous allez le faire.
Ça, on va faire un special Christmas.
Pour 2020?
Pour 2020, ouais, peut-être. Pour Noël 2020.
Vous commencez quand le tournage?
En septembre.
Fantastique.
Parce qu'on attend justement, parce que l'intérêt de Fais pas ci, fais pas ça, c'est qu'on réagit aussi sur l'actualité. En fonction de ce qui va se passer dans les prochains mois, on va réagir dessus.
Donc ça veut dire que, en fait, cet épisode cadeau pour les téléspectateurs de la 2 va être écrit pendant l'été.
Voilà, c'est ça. Enfin, il est en phase de fabrication. Là, c'est Michel Leclerc qui est sur le coup, qu'on adore tous, qui est un réalisateur incroyable et qui avait réalisé pas mal d'épisodes de Fais pas ci, fais pas ça. Et donc voilà, il va tous nous réunir et on va retourner à la source de Fais pas ci, fais pas ça avec les vrais problèmes de base des deux familles. Quoi.
Bon, alors juste pour clore le sujet, Madeleine Collins, ce film qui en ce moment est en montage, dans lequel vous interprétez le mari de Virginie Efira, c'est quand même pas mal de pouvoir jouer avec une des plus belles légendes du cinéma hollywoodien, Jackie Bisset.
Ouais,
Jacqueline Bisset.
Ah, je l'ai juste croisée. Mais on a échangé quelques mots, elle est incroyable. Ouais. Très délicate, très élégante. Ouais.
Très élégante.
Très rachée, sublime.
Bruno Salomon, vous l'avez vécu comment ? L'Oscar de votre meilleur ami, Jean Dujardin. Vous êtes dit que la vie avait finalement parfois beaucoup plus d'imagination que nous. Jamais lui n'aurait imaginé une chose pareille vous étiez réunis dans les Nous c'est nous.
Ouais.
Donc finalement, le destin est un sacré auteur, on va dire. Non.
Oui, c'est assez incroyable. Et quand je vois
un sacré scénariste.
Ce qui se passe aussi pour Omar Sy, là, qui tourne avec Harrison Ford et tout, je me dis, c'est incroyable, c'est génial. Enfin, ce qui se produit, la France, ça bouge un peu quand on s'exporte, ça y est. C'est
cool. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous combler d'un bonheur absolu dans votre métier ?
Moi, c'est d'écrire. J'adore écrire, j'adore créer. Donc, ce serait plus écrire un film. Là, j'écris un film d'animation.
Ouais.
Et j'avoue que ça me comble pas mal, parce que du coup, je peux aller dans l'onirisme, je peux aller dans la folie, et c'est pas un problème, il n'y a pas de problème de financement.
Le sujet de ce film d'animation ?
C'est l'histoire d'un petit garçon qui se rêve super-héros, et en fait, il comprend que pour être super-héros, il faut un animal totem comme Batman, c'est une chauve-souris, Spider-Man, une araignée, mais le problème, c'est qu'ils sont tous pris, il ne reste plus que le cochon d'Inde.
On revient au cochon d'Inde du premier One Man Show.
Ouais,
sauf que
le cochon d'Inde n'a strictement aucun pouvoir et en plus il est cardiaque.
C'est formidable, on attend ça avec impatience. On retrouve tout de suite Bruno Salomon, vous êtes le seul artiste de votre famille ou bien côté paternel et maternel, il y en a d'autres qui ont fait le pari d'une vie sur scène et devant la caméra?
J'ai un oncle qui est peintre et un cousin aussi qui est dessinateur.
Ah, donc il y a l'ADN artistique, la fibre artistique dans cette famille.
Peut-être, il y a un petit truc.
Ouais. Alors, Salomon, c'est un nom d'origine sicilienne. Vous êtes retourné sur la terre de vos aïeux, en Sicile.
J'étais dans le petit village où a grandi ma grand-mère, qui s'appelle El Carafridi, qui est à côté de Corleone. Et d'ailleurs, j'ai visité Corleone et j'étais extrêmement déçu. C'est tout pourri. Je m'attendais à un truc typique et tout. Enfin, je suis arrivé en fin de journée, donc j'ai vécu un truc. Je me suis dit, ah bon, c'est ça, Corleone. En plus, avec la place de la mafia, Piazza della Mafia, la place du juge Falcone.
Oui, non, mais ce qui est incroyable, l'administration a donné très officiellement des noms de places qui sont la mafia, le juge Falcone,
ouais,
tout dingue. Ça, c'est naturel chez eux.
Oui, c'est ça, c'est étonnant. Et quand vous promenez dans les rues, les gens vous regardent avec une sorte de truc. Mais il m'expliquait à Palerme, justement, qu'ils jouent ça. Quelque part, c'est un peu, ça fait partie du truc touristique. Quoi. Ils jouent un peu à la mafia.
Ils jouent à la mafia pour les touristes.
Buonasera. Moi, je disais, buonasera, un mec me regarde comme ça, froidement. Il ne me répond pas. Il y a un deuxième qui sort. Je dis buonasera. Il ne me répond pas.
Ils font tout pour que le touriste se sente dans un film de Coppola, dans Le Parrain. Quoi.
On est dedans.
Incroyable.
Et le village de chez ma grand-mère, c'était pareil. C'était un village très, très pauvre, très, très aride. Mais la Sicile, je connais un petit peu la côte est et tout. C'est juste sublime.
Mais votre papa a grandi en Sicile ou il est venu très tôt en France ?
Non, malheureusement, il est né à Tunis parce qu'ils ont migré, les Siciliens, ils ont migré en Tunisie.
D'accord.
Et donc, j'ai cherché des origines en Sicile. On a des cousins éloignés, mais je n'ai pas trouvé de.
Vous n'avez trouvé personne, de la famille Salomon qui vit encore là-bas ?
Je voulais manger des pâtes. Moi, c'est pas ça qui fait les pâtes. Non, ils ont migré Tunisie. Et après Marseille.
D'accord. Bon,
de ce côté.
Voilà. Sud. Le sud.
Le sud est à moi. Il est à moi, Isabelle. quand je te parle du sud. Moi, je te parle du sud. C'est comme ça.
Alors, vous avez été déçu, Bruno Salomon, par le village de Corleone, mais Vous n'avez pas été déçu en approchant quand même une nuit, paraît-il, un volcan en éveil qui crachait des flamèches sur les champs calcinés alentour. Il paraît que vous avez vécu un truc incroyable. Vous aviez trop bu de ce bon petit vin qu'on boit en Sicile, non ?
Non, j'ai dormi au pied de l'Etna qui était en activité. Oui.
Ah bah voilà !
Parce qu'en fait, je suis arrivé, j'ai traversé la Sicile, qui est très aride, comme je vous disais tout à l'heure, je cherchais mes origines, et j'ai traversé en voiture, et donc il y avait des champs qui brûlaient, tout, c'est complètement aride et tout, c'était dingue.
Mais alors pourquoi l'étonner quand je vous en parle ?
Non mais je pensais pas l'avoir dit en interview, comme quoi je raconte ma life, il faut que j'arrête de parler.
Non.
Et là j'arrive et j'arrive sur Catania et là je vois au loin je vois l'Etna en activité, je vois les voitures qui vont dans l'autre sens, je fais qu'est-ce qui se passe, il y a une activité, faut que je reparte et tout, et puis je me dis moi je continue quand je vois quand même des voitures, donc je continue, j'arrive à l'hôtel qui s'appelait le je sais plus comment, mais de l'Etna, enfin l'hôtel de l'Etna, enfin qui était vraiment au pied de l'Etna, et là je vois la réceptionniste qui est pas du tout en panique, j'ai dit mais c'est normal, oui c'est normal, mais donc je vais dormir là c'est normal. Et en fait il y a une grande baie vitrée avec vue sur l'Etna en activité, et donc il y avait strictement aucun danger a priori,
mais toutes les gens étaient vides quand même, tout le monde était parti.
Ça sentait brûlé, c'était très bizarre, mais c'est étonnant d'ailleurs. Bon, quand on va à Catane, c'est calciné.
Comment dort-on lorsqu'on dort au pied de l'Etna? On fait genre, quel genre de rêve?
Ben on rêve que ça fait, vous ronflez pas, c'est
non, sincèrement.
Non, franchement, non, j'ai vraiment. Non, on l'entend pas du tout, je m'en suis pas rendu compte. Non, il n'y avait pas de danger, sinon je pense qu'ils nous auraient évacués. Mais quand j'allais à Catane, tout est calciné et on m'a fait visiter une sorte de grotte. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était le sol d'il y a 1000 ans qui était à peu près à moins 4 mètres.
Comme
donc,
de la lave.
Recouvert de lave, en
sèche,
fait, il y a des couches de lave, quoi, là, au fur et à mesure. Donc ça grandit au fur et à mesure.
Impressionnant.
C'est beau la nature. Hein. Ça vous fascine, hein, Isabelle. Là, je sens.
Ce que vous me racontez me fascine. Bon, Bruno Salomon, ne changez rien.
C'est vrai.
Et revenez nous voir très très vite.
Avec joie, Isabelle.
Je vous embrasse, à très vite.
À très vite.